impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous vous invitons aujourd'hui à suivre le voyage intérieur de Sylvain Tesson, auteur de « Dans les forêts de Sibérie », publié aux éditions Gallimard en 2011. C'est le journal d'un voyage immobile, écrit au fil des 6 mois passés dans une cabane au bord du lac Baïkal, dans la lointaine Sibérie, aux confins de la Bouriatie. Là, le silence est plus grand, la solitude plus complète, le chemin vers soi plus direct. Sylvain Tesson, écrivain voyageur dont nous avons déjà lu 2 des nouvelles extraites de son recueil « Vérification de la porte opposée », n'arpente plus les espaces infinis mais son espace intérieur dans la maîtrise du temps qui devient le sien au fil de ce journal d'apprentissage. À qui s'adresse-t-il ? Écrire un journal pour le publier, c'est déjà s'adresser au-delà de soi-même aux autres susceptibles de se reconnaître dans cet espoir insensé de renouer avec la part la plus vraie de soi par l'écart manifeste que crée la solitude. C'est chercher à se relier à autrui dans l'authenticité retrouvée. Nous lirons ce journal à plusieurs voix car plusieurs personnages se dessinent dans cet autoportrait en creux. L'ermite volontaire, le lecteur passionné, le philosophe d'une situation extrême, le contempteur du monde moderne, l'ivrogne non repenti, l'arpenteur du Baïkal, le poète mélomane. Ce journal d'ermitage, il le présente ainsi.
Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés. L'été, des ours sur les berges, bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude étaient déjà là. Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle. J'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. J'ai regardé les jours passés face au lac et à la forêt. J'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. La cabane était un poste d'observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et finalement la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. L'immobilité m'a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. Le génie du lieu m'a aidé à apprivoiser le temps, et mon ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations. Tous les jours, j'ai consigné mes pensées dans ce cahier, ce journal d'ermitage. Le voici.
Février, la forêt. 9 février. Je suis allongée sur mon lit dans la maison de Nina, rue des Prolétaires. J'aime les noms des rues en Russie. Dans les villages, on trouve la rue du Travail, la rue de la Révolution d'Octobre, la rue des Partisans et parfois la rue de l'Enthousiasme où marchent mollement de vieilles slaves grises. Je suis au seuil d'un rêve vieux de 7 ans. En 2003, je séjournais pour la première fois au bord du Baïkal. Marchant sur la grève, je découvris des cabanes régulièrement espacées, peuplées d'ermites étrangement heureux. L'idée de m'enfouir sous le couvert de futaies, seul, dans le silence, chemina en moi. 7 ans plus tard, m'y voilà. Se lever de son lit demande une énergie formidable, surtout pour changer de vie. Cette envie de faire demi-tour lorsqu'on est au bord de saisir ce que l'on désire. Certains hommes font volte-face au moment crucial. J'ai peur d'appartenir à cette espèce. Le cambion de Micha est chargé ras la gueule. Pour atteindre le lac, 5 heures de route à travers des steppes englacées. Une navigation par les sommets et les creux d'une houle pétrifiée. Des villages fument au pied des collines, vapeurs échouées sur des hauts fonds. Devant pareille vision, Malevitch écrivit « Quiconque a traversé la Sibérie ne pourra plus jamais prétendre au bonheur. » Au sommet d'une croupe, le lac apparaît. On s'arrête pour boire. Cette question après 4 rasades de vodka. Par quel miracle la ligne du littoral épouse-t-elle aussi parfaitement les contours de l'eau? Débarrassons-nous des statistiques. Le Baïkal, 700 km de long sur 80 de large et 1,5 km de profondeur. 25 millions d'années. L'hiver, une épaisseur de glace de 110 cm. Le soleil se fout de ces données. Il irradie son amour sur la surface blanche. Les nuages filtrent les rayons, un troupeau de plaques de lumière glisse sur la neige. La joue du cadavre s'éclaire. Le camion s'engage sur la glace. Sous les roues, 1 kilomètre de fond. Si nous tombons dans une faille, la machine s'abîmera dans le noir. Les corps chuteront silencieusement. Lente neige des noyés. Le lac est un caveau rêvé pour qui craint la pourriture. James Dean voulait mourir en laissant de beaux cadavres. Les petites crevettes Episcura baikalantzi nettoieront les corps à 24 heures et ne laisseront que l'ivoire des eaux au fond des eaux.
Février. Matériel nécessaire à 6 mois de vie dans les bois. Hache et merlin. Bâche, sac de jute, pic et épuisette à glace. Patins à glace, raquettes à neige. Kayak et pagaie, cannes à pêche, fil, plomb, mouche et cuillère. Batterie de cuisine, théière, chignole à glace, corde, poignard et couteau suisse, pierre à aiguiser, lampe à huile, kérosène, bougie.
GPS, boussole, carte, panneau solaire, câble et batterie rechargeable, allumettes et briquets, sac à dos de montagne, sac marin, tapis de feutre, sac de couchage, équipement de haute montagne, moustiquaires de visage, gants, bottes de feutre, piolets, crampons. Pharmacie, 10 boîtes de paracétamol pour lutter contre les effets de la vodka.
Scie, marteau, clou, vis, lime, drapeau français pour le 14 juillet, fusée anti-ours type feu à main, pistolet à fusée, cap de pluie, grille à feu, scie pliable, tente, tapis de sol, lampe frontale, sac de couchage, moins 40 degrés Celsius, veste de la police montée canadienne, luge en plastique, crampons, bottes à jambières.
Vodka et verre à alcool. Alcool à 90 pour parier la pénurie de l'article précédent. Bibliothèque personnelle. Cigares, cigarillos, papier d'Arménie et boîte tupperware pour servir d'humidificateur. Icône. Saint-Séverin de Sarov, Saint-Nicolas, famille impériale des derniers Romanov, Tsar Nicolas II, Vierge Noire. Malle en bois, jumelles, appareils électroniques, cahiers et stylos, vivres, pâtes, riz, tabasco, pain de guerre, boîte de fruits, piments, poivre, sel, café, miel et thé pour 6 mois.
Février. La dernière caisse est une caisse de livres. Si on me demande pourquoi je suis venue m'enfermer ici, je répondrai que j'avais de la lecture en retard. Je cloue une planche de pain au-dessus de mon chalet et range mes livres. J'en ai une soixantaine. À Paris, j'ai pris grand soin de constituer une liste idéale. Quand on se méfie de la pauvreté de sa vie intérieure, il faut emporter de bons livres. On pourra toujours remplir son propre vide. L'erreur serait de choisir exclusivement de la lecture difficile en imaginant que la vie dans les bois vous maintient à un très haut degré de température spirituelle. Le temps est long quand on n'a que Hegel pour les après-midi de neige. Avant mon départ, un ami m'a conseillé d'emporter les mémoires du cardinal de Ré et le Fouquet de Morand. Je savais déjà qu'il ne faut jamais voyager avec des livres évoquant sa destination. À Venise, lire Lermontov. Mais au Baïkal, Byron. Je vide la caisse. J'ai Michel Tournier pour les songeries, Michel Déon pour la mélancolie, Lawrence pour la sensualité, Mishima pour les froids d'acier. J'ai une petite collection de livres sur la vie dans les bois. Gray Hall pour la radicalité, Daniel Defoe pour le mythe, Aldo Leopold pour la morale, Thoreau pour la philosophie, mais son préchipréchat de parpaillot comptable me lasse un peu. Whitman, lui, m'enchante. Ses feuilles d'herbe exhalent la grâce. Junger a inventé l'expression de « recours aux forêts ». J'ai 4 ou 5 de ses livres. Un peu de poésie et des philosophes aussi. Nietzsche, Schopenhauer, les stoïciens. Sade et Casanova pour me fouetter le sang. Des polars de la série noire, il faut parfois souffler. Quelques guides naturalistes de la collection de Lachaud et Niestlé sur les oiseaux, les plantes et les insectes. La moindre des choses, quand on s'invite dans les bois, est de connaître le nom de ses hôtes. L'affront serait l'indifférence. Si des gens débarquaient dans mon appartement pour s'y installer de force, j'aimerais au moins qu'ils m'appelassent par mon prénom. La tranche de mes volumes de la Pléiade brille à la lueur des bougies. Les livres sont des icônes. Pour la première fois de ma vie, je vais lire un roman d'une traite.
19 février, c'est le soir, il est 9h, je suis devant la fenêtre. Une lune timide cherche une âme sœur. Mais le ciel est vide. Moi qui sautais au cou de chaque seconde pour lui faire rendre gorge et en extraire le suc, j'apprends la contemplation. Le meilleur moyen pour se convertir au calme monastique est de s'y retrouver contraint. S'asseoir devant la fenêtre, le thé à la main, laisser infuser les heures, offrir au paysage de décliner ses nuances, ne plus penser à rien et, soudain, saisir l'idée qui passe, la jeter sur le carnet de notes. Usage de la fenêtre, inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir. Je passe 2 heures dans la position du docteur Gachet peint par Van Gogh. La joue sur la main, les yeux dans le vague. Soudain, un bourdonnement monte dans le silence et des pinceaux de phare trouent la nuit. Des bagnoles roulent sur la glace vers le nord. À la jumelle, j'en distingue 10. Elles font route vers ma grève. 20 minutes plus tard, 8 4x4 décorés de placards publicitaires sont alignés sur la plage. Ce sont des notables d'Irkoutsk, membres du parti de Poutine. Edina Rossia, qui font le tour du lac en 8 jours. Ils vont passer la nuit ici, sous la tente. J'apprendrai quelques mois plus tard qu'il y a là un membre du FSB, quelques proches du gouverneur et le directeur d'un parc naturel. Leurs pneus ont défoncé la pente de neige qui menait à la grève. Les types semblent ne porter aucune considération à la poudreuse. Marcher sur la neige, c'est ne pas supporter la virginité du monde. On commence par défoncer les blancs talus, puis on éventre les polonais. Les moteurs tournent, les transistors crachent du Nidaya, une Lolita pour préado mondialisée que les ploucs russes adulent. Je suis effondré. Je m'enferme dans la cabane et tente de me lustrer les nerfs avec 250 ml de vodka Credo Vaya. J'entends les types beugler sur la glace, ils ont tronçonné un trou et dans le faisceau d'une lampe de caméra plongent à tour de rôle dans l'eau glacée en hurlant. À peine digne d'un bizutage de première classe dans une caserne tchétchène. Ce que je suis venu fuir s'abat sur mon îlot. Le bruit, la laideur, la grégarité testostéronique et moi, pauvre poire avec mes discours sur le retranchement et mon exemplaire des rêveries de Jean-Jacques sur la table. Je pense à ces reclus bénédictins contraints de guider les visites touristiques. Ces religieux venus enfermer leur foi dans des cloîtres qui se retrouvent à détailler la règle de Saint-Benoît à des foules indifférentes. Au IVe siècle, les pères du désert devenaient fous de solitude. Ils ne supportaient plus la moindre intrusion. Ils refluaient au fond des déserts, s'enfouissaient dans les grottes. Leur réserve d'amour se vouait à un monde vide de leurs semblables. Dans les banlieues, parfois, un type tire une volée de plomb dans un groupe de jeunes au pied d'une tour. Il finit en entrefilet dans le Parisien, puis derrière les barreaux. Pour me refroidir le sang, je sors sur le lac tandis que les Russes s'adonnent au ski joring tracté par des voitures. Je marche 2 kilomètres vers la Buryatie et m'allonge sur la glace. Je suis couché sur un fossile liquide vieux de 25 millions d'années. Dans le ciel, des étoiles en accusent 100 fois plus. Moi, j'ai 37 ans. Et je rentre parce qu'il fait moins 34.
Thank you. 21 février. 32 degrés sous zéro. Ciel de cristal. L'hiver sibérien est pareil au plafond du palais de glace de Vézaas, stérile et pur. Les beaufs d'avant-hier ont tout saccagé. Ils ont défoncé les congères, laissé partout l'empreinte de leur passage. Seule une tempête de neige m'apaisera en vernissant à nouveau la rive. À 50 mètres au sud de la cabane se dresse un banya, cabanon de 5 mètres sur 5, chauffé par un poêle. Volodia l'a construit l'an passé. Il faut le chauffer 4 heures pour y faire monter la température à 80 degrés Celsius. Le banya, version slave du sauna, illustre le mépris des Russes pour la tempérance. Le corps oscille sans transition du feu à la glace. Après 20 minutes de cuisson, je sors. Dehors, les 30 degrés négatifs dissipent la chaleur accumulée. Le gel enserre le crâne et il faut rentrer. Le banya, allégorie de nos vies déroulées dans la perpétuelle poursuite d'un mieux-être. Nous poussons la porte, croyant toucher le bonheur. Bientôt, nous faisons demi-tour pour retrouver ce qui ne tardera pas à nous peser à nouveau. En Russie, on se réfugie dans le banya une ou deux fois par semaine pour se débarrasser des scories. La chaleur presse le corps comme un citron. Toute rancœur se dissout. La mauvaise graisse, la crasse et l'alcool s'exfiltrent. À 6 heures du soir, la tempête se lève. À poil dans mes bottes de feutre, je rentre à la cabane. Je tiens ma lampe à pétrole à la main. Je garde en mémoire l'histoire de ces zèques du goulag sortis pissés par une nuit de blizzard. Ils se perdirent et ne purent jamais regagner leur abri. On les retrouva morts au matin à 50 mètres des baraquements. J'avale un litre de thé brûlant. Le banya, luxe absolu. Je suis un homme nouveau. Qu'on me donne une pelle et un foulard rouge, je bâtirai le socialisme. Le soir, un bol de riz au tabasco, un demi-saucisson, un demi-litre de vodka et en dessert, la lune, par-dessus les crêtes, roulant sa tristesse. Je sors saluer la grosse boule maternelle qui veille sur le sommeil des reclus, puis je me couche plein d'apitoiement pour les bêtes qui ne disposent pas de cabane, ni de banya, ou d'un terrier.
22 février. Une fuite, la vie dans les bois? La fuite est le nom que les gens ensablés dans les fondières de l'habitude donnent à l'élan vital. Un jeu? Assurément. Comment appeler autrement un séjour de réclusion volontaire sur un rivage forestier avec une caisse de livres et des raquettes à neige? Une quête? Trop grand mot. Une expérience? Aux sciences scientifiques, oui. La cabane est un laboratoire. Une paillasse où précipiter ses désirs de liberté, de silence et de solitude. Un champ expérimental où s'inventer une vie ralentie. Les théoriciens de l'écologie prônent la décroissance. Puisque nous ne pouvons continuer à viser une croissance infinie dans un monde aux ressources raréfiées, nous devrions ralentir nos rythmes, simplifier nos existences, revoir à la baisse nos exigences. On peut accepter ces changements de plein gré. Demain, les crises économiques nous les imposeront. La décroissance ne constituera jamais une option politique. Pour l'appliquer, il faudrait un despote éclairé. Quel gouverneur aurait le courage d'imposer pareille cure à sa population? Comment convertirait-il une masse à la vertu de l'ascèse? Convaincre des milliards de Chinois, d'Indiens et d'Européens qu'il vaut mieux lire Sénèque qu'engloutir des cheeseburgers? L'utopie décroissante. Un recours poétique pour un individu désireux de se conformer aux principes de la diététique.
Mars. Le temps. 3 mars. Je me souviens de mes voyages à pied dans l'Himalaya, à cheval, dans les Monts Célestes, à vélo il y a 3 ans, dans le désert de l'Oust-Yurt. Cette joie alors a triomphé d'un col. La rage carnassière à abattre les kilomètres, l'envie de mourir d'avancer. Parfois, j'allais, tel un possédé, marchant jusqu'au délire, à l'épuisement. Dans le Gobi, je m'arrêtais pour passer la nuit. Là, m'écroulant sous moi, à l'endroit de mon dernier pas, et repartais le lendemain matin, sitôt l'œil ouvert, machinalement. Je jouais au loup, à présent je fais l'ours. Je veux m'enraciner, devenir de la terre après avoir été du vent. J'étais enchaîné à l'obsession du mouvement, drogué d'espace. Je courus après le temps, je croyais qu'il se cachait au fond des horizons. Par la vigueur de l'usage, compensé, la hâtiveté de son écoulement. Montaigne, essai 3. Voilà comment je m'accommodais de sa fuite. L'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puissant. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Elles coulent de la plaie du temps blessé. Dans la cabane, le temps se calme, il se couche à vos pieds en vieux chien gentil et soudain, on ne sait même plus qu'il est là. Je suis libre parce que mes jours le sont. Comme tous les matins, lorsque le poêle chauffe, je vais au trou d'eau creusé à 30 mètres du rivage. Pendant la nuit, la couche de glace se reforme et je dois la casser pour puiser. Je reste un moment là, debout, à regarder la taïga. Soudain, une main blanche, ses os ont avalé tant de noyers, jaillit par le trou pour m'agripper la cheville. L'hallucination est fulgurante. J'ai un mouvement de recul et lâche le pic à glace. Mon cœur cogne. Les eaux dormantes sont maléfiques. Les lacs exhalent une atmosphère mélancolique parce que les esprits y maraudent en vase clos, ruminant leur chagrin. Les lacs sont caveaux. La vase y diffuse une odeur délétère, la végétation y plaque de sombres reflets. En mer, le ressac, les ultraviolets et le sel dissolvent tout mystère et la clarté l'emporte. Que s'est-il passé dans cette baie? Y a-t-il eu un naufrage, un règlement de compte? Je n'ai pas l'intention de cohabiter 6 mois avec une âme en peine. J'ai assez de la mienne. Je rentre dans la chaleur de la cabane avec mes 2 seaux à la main. Par la fenêtre, le trou à glace fait une tache noire sur la nappe livide. Un chat dangereux qui fait communiquer les mondes. Chaque après-midi, je chausse mes raquettes. 1 heure et demie de marche dans la forêt pour atteindre la lisière supérieure des arbres. J'aime entrer dans le bois. Derrière l'orée, les sons s'atténuent. Lorsque je pénètre sous la voûte d'une cathédrale gothique en France ou en Belgique, j'éprouve le même engourdissement, une douceur dans l'être qui alourdit les paupières et diffuse sa tiédeur derrière l'os frontal. Quelque chose réagit en moi au rayonnement de la pierre calcaire comme au rayonnement des résineux. À présent, je préfère les futaies aux nefs de pierre. Sous les arbres, neige profonde. Le vent ne la balaye jamais. Malgré les raquettes, je m'enfonce. Les lynx, les loups, les renards et les visons circulent dans la nuit. La tragédie sauvage se lit dans les empreintes. Certaines sont perlées de sang. Elles sont les paroles de la forêt. Les bêtes ne s'enfoncent pas. La surface de leurs pieds est proportionnée à leur poids. L'homme est trop lourd pour aller sur la neige. Parfois le cri des geais, et sinon le silence. Il le lance du haut d'un sapin, sentinelle de plumes sur une tour d'aiguilles. Il crie parce que je pénètre chez eux. Personne ne demande jamais aux bêtes la permission de traverser leur domaine. Le lichen pend aux arbres. J'ai lu un conte il y a longtemps où l'auteur imaginait un dieu errant dans les sous-bois. Son manteau s'accrochait aux branches des arbres et les lambeaux devenaient le lichen. La tristesse des pins. Ils ont l'air d'avoir froid. Après 1 heure de montée, l'altimètre marque 750 mètres. Encore un effort et au-delà de 900 mètres d'altitude, la forêt baissera les armes. Là-haut, la neige, rabotée par les trempettes, offre une surface dure. Les raquettes accrochent bien, je m'élève vite et choisis de remonter l'une des vallées étroites. Quelques mélèzes subsistent au-delà de la frontière forestière. Ils poussent isolés et leurs branches contournées se détachent sur le fond lapis du lac étoilé de fractures. L'or des branches, le bleu du lac, le blanc des fractures de glace, palette de cousaille. Parfois le sol se dérobe, la neige accumulée sur un bosquet de pins nains s'effondre sous mon poids. Je tombe dans une nasse de branches, les raquettes se coincent sous l'entrelac, j'éructe au fond du trou. Dans les récits de la Kolyma, Varlam Chalamov, détenu dans un goulag de Sibérie, se souvient des pins nains qui entouraient le camp. Lorsque la température se réchauffait en mai, les arbres se libéraient de la couche de neige. Ils se redressaient, ils annonçaient le printemps, l'espoir. À l'altitude de 1000 mètres, je grimpe vers les arêtes rocheuses qui flanquent les Talweg. La denture des dorsales granitiques se découpe sur le lac. Certains de mes amis vivent pour cela seuls. Gagner les altitudes où l'air pique le nez, vivre suspendu entre le ciel et la terre dans un royaume de forme abstraite, sans odeur. Lorsqu'ils descendent dans les vallées, la vie leur semble puer. En ville, les alpinistes sont des gens malheureux. Entre les blocs de pierre qui émergent de la neige, je construis un feu, y fait bouillir le thé. Le feu et moi fumons côte à côte. Nous offrons nos volutes au vieux lac. Au cours de ces journées, là-haut, je me consacre à la pure réjouissance d'être. Tiré sur son clope, seul, devant le lac. Ne nuire à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve. Et savoir que la nature ne nous rejette pas. Dans la vie, il faut trois ingrédients, du soleil, un belvédère, et dans les jambes, le souvenir lactique de l'effort. Et aussi des petits Monte Cristo. Le bonheur est fugace, comme une bouffée de cigare. Il fait moins 30 degrés. Trop froid pour la contemplation. Je choisis un couloir pour redescendre en glissant. Je m'accroche aux baliveaux de frênes et aux branches de cornouillers. Je retrouve la forêt de pins et de bouleaux, m'enfonce dans la neige endormie et regagne la rive en une heure. En tirant un cap au jugé, je touche la grève, pas loin de la cabane. Lorsque je la découvre, je suis heureux. Elle m'accueille. Je rentre chez moi. Je ferme la porte et allume le poêle. En mai, il me faudra grimper jusqu'au sommet de mon domaine. L'épigraphe de l'Hyperion. Ne pas se laisser écraser par l'immense, savoir s'enfermer dans le plus étroit espace, c'est en cela qu'est le divin. En somme, après la promenade, après s'être gorgé de la grandeur du lac, pensez à adresser un clin d'œil au petit serviteur de la beauté. Flocons, lichens, mésanges.
C'est l'hiver sibérien et nous vous laissons hiberner, rêver, méditer avec Sylvain Tesson. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour continuer ce périple immobile au bord du lac Baïkal. La musique qui accompagnait ce voyage était celle de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Et ce sont Dominique, Ouria, Valérie et Anne qui ont conçu et lu cette émission. L'enregistrement est l'œuvre de Vincent et de Claude Michel. À la semaine prochaine! Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.